À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animé par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonsoir, bonsoir Serge, bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir à nos invités que Serge nous présentera tout à l'heure, en cette période de fête et de nouvelle année. Alors l'actualité italienne de ces derniers temps, bon, tout le monde a entendu parler du référendum qu'avait lancé en Italie le président du Conseil, Matteo Renzi. Ce référendum était supposé... porté sur la Constitution et la réforme de la Constitution qu'il proposait. Il a été largement désapprouvé dans ce référendum de façon assez importante. Et il a tenu parole, c'est-à-dire qu'il a dit si mon référendum, c'est le non qui l'emporte, eh bien moi je démissionne. Et il a démissionné. Ce qui est plutôt, allez, on va dire élégant, finalement.
Il élégant.
La parole. Bon, le problème de ce référendum, c'est qu'on se demande, comme souvent dans les référendums d'ailleurs, si on a vraiment voté en Italie pour ou contre la Constitution qu'il proposait, enfin la réforme, ou pour ou contre lui.
Ça, c'est pas que en Italie.
Et puis, comment, quand on est dirigeant en ce moment, c'est peut-être un petit peu compliqué de faire un référendum. Enfin, bon, en tous les cas, voilà, il a été battu. Mais les pour et les contre avaient des arguments assez solides, d'ailleurs. C'est pas facile, hein. Quand on veut réformer une constitution, il y a les garants de la constitution, disons que c'est les garants de la stabilité d'un pays, puis il y a ceux qui aimeraient bien voir changer des choses, donc c'est jamais très, très évident, le choix n'est jamais très évident.
Non, mais...
Voilà, enfin bref, lui a démissionné, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement tombe, puisque le président de la République, Mattarella, a dû désigner ou proposer le poste de président du Conseil à un autre politique. Et celui qui l'a accepté, c'est Paolo Gentiloni, qui était déjà connu, hein, puisqu'il était ministre de Renzi aux Affaires étrangères. Donc Paolo Gentiloni, alors les adversaires de Renzi disaient que c'est un copier-coller du précédent gouvernement, les autres disent bah non, Gentiloni est quelqu'un de très bien, ce qui est plutôt d'ailleurs vrai, qui est un diplomate reconnu. Alors Gentiloni, il a un parcours intéressant, c'est-à-dire que... finalement, il colle à notre émission, Gentiloni. Je ne sais pas s'ils l'ont élu exprès en Italie ou s'il était désigné président du Conseil, parce que il a une formation scolaire au départ de l'école Montessori.
Ah ben.
Et puis après, bon, il a suivi un parcours un peu plus classique. Après, il a été à l'université de la Sapienza, qui est une des grandes universités italiennes, et il a pris comme spécialité l'économie. Et puis il est rentré en politique petit à petit. Il a été à Legambiente, qui est l'association écologiste italienne. Il y a rencontré Francesco Rutelli, qui avait été maire de Rome à une époque et qui était le leader, allez, on va dire, de l'équivalent des Verts en France, enfin une des appellations de ces mouvements écologiques. Et puis ensuite, il s'est rapproché de Romano Prodi. Romano Prodi, qui a été chef du gouvernement en Italie,
commissaire
européen. Et en 2006, donc, il a été pour la première fois à un gouvernement comme ministre des communications. Voilà, donc là, il était ministre des Affaires étrangères. Il devient Premier ministre, enfin, en Italie, on dit plutôt président du Conseil. Et monsieur l'équivalent, chef du gouvernement, donc. Et dans la formation nouvelle, il y a quelques jeux de chaises musicales, parce que lui n'étant plus aux affaires étrangères, c'est celui qui était ministre de l'Intérieur que son successeur, disons, à la tête des affaires étrangères, était celui qui auparavant était à l'intérieur, c'est-à-dire Alfano. Et puis bon, après, il y a eu tout un jeu de chaises musicales. Et puis, il y a une nomination qui fait débat, mais vraiment débat, en Italie, c'est la ministre de l'Éducation. Valeria Fedeli, qui a 67 ans, qui est un personnage, une grosse personnalité, on va dire, et qui a remplacé Madame Giannini, qui avait proposé une réforme scolaire, qui a fait débat là aussi, elle la remplace. Alors, cette Madame Fedeli, elle était, au départ, elle avait fait d'études d'assistante sociale, et puis elle avait un diplôme d'assistante sociale. Alors, il y a des polémiques là-dessus. Est-ce que c'était vraiment ce diplôme ou pas, enfin bref, peu importe, disons que c'était la voie qu'elle avait suivie, et puis elle est arrivée à l'éducation, mais elle avait été aussi secrétaire du syndicat CGIL, qui est l'équivalent à peu près de la CGT en France, et elle était présidente de ce syndicat au niveau européen dans le domaine textile. Voilà. Après, elle est rentrée, elle aussi, en politique. Et elle était donc du parti de Renzi ou de ce monsieur Gentiloni, le PD, Parti démocrate, qui est une sorte d'ex-parti communiste et socialiste, hein, centre-gauche, on va dire, plutôt, d'ailleurs, qu'elle, communiste plus à gauche. Et elle a été sénatrice. Et puis, elle a été vice-présidente du Sénat en 2013. Et elle se retrouve maintenant donc ministre de l'Éducation. Alors pourquoi elle fait...
Ça fait débat, oui.
Voilà, pourquoi elle fait débat. Parce que c'est quelqu'un de très, très engagé. Elle a contre elle notamment l'équivalent italien de la Manif pour tous. Puisqu'elle s'appelle d'ailleurs la Manif pour tous, le mouvement en Italie. Et bon, alors, elle veut qu'à l'école soit reconnue, bon, tout ce qui concerne les droits, l'égalité des droits, et notamment pour les homosexuels, les lesbiennes, etc. Et donc, ça fait débat, évidemment, on l'accuse de tas de choses, de théorie du genre, enfin, les trucs dont on a l'habitude ici, hein, de toute manière. Voilà. Mais c'est quelqu'un d'assez costaud quand même. Alors évidemment, il y a les opposants à sa nomination. Et bon, l'équivalent donc des mouvements à la Manif pour tous sont tout à fait contre. Et puis, par contre, le secrétaire national de l'association Archie Gay est tout à fait pour elle.
Oui,
voilà. Donc quelqu'un qui ne laisse pas indifférent, je crois qu'on va en entendre parler. Voilà dans les nouvelles. Bon, l'Italie au niveau de l'éducation, on en aura un petit écho tout à l'heure, non pas sur l'Italie directement, mais ce qui a pu être inspiré d'Italie. Sinon, en Italie, bon, il y a le système scolaire italien, il y a l'école primaire, il y a le collège et le lycée. Alors c'est à peu près l'équivalent de la France, pas tout à fait l'école primaire. Primaire, disons, le système est un système, donc les classes vont du cours préparatoire à la quinta elementare, c'est-à-dire le sort de cours moyen, hein, et puis après on passe donc les scuole medie, après on passe au lycée, il y a même un peu plus différents types d'études au lycée. Puis après, il y a des universités. Alors les universités, certaines sont assez anciennes et connues. Hein. L'université de Bologne, 1158.
Padoue,
1222. Naples, 1234. La Sapienza de Rome, qui est une des grandes universités italiennes, depuis 1303. Et puis, certaines sont plus récentes, mais sont assez célèbres pour la qualité de l'enseignement. C'est le Politecnico de Turin, 1859, l'Université Bocconi de Milan, qui est une
HEC.
Voilà, très spécialisée dans l'économie, et la Scuola Normale Superiore de Pise. Voilà. Sinon, pour l'enseignement, bon, on pourrait rentrer dans le détail, mais voilà ce qu'on peut en dire. On parlera des projets INIS pour cette année 2017.
Dans 2017.
Dans la prochaine émission. Et puis, on va peut-être écouter un premier morceau. Alors, j'ai choisi Il mio compagno di scuola. C'est mon camarade d'école. C'était une chanson qui a été composée par Antonello Venditti, qui est un des grands chanteurs italiens, et qui retrace dans cette chanson bon, toutes différentes étapes de l'école, que ce soit primaire et puis le lycée, et puis bon, les périodes amoureuses de sa voisine de classe, etc., etc., l'enseignement, l'étude de la Divina Commedia, est-ce qu'on s'en souvient, est-ce qu'on s'en souvient pas, est-ce qu'on n'a pas d'autres souvenirs plutôt de l'école, après l'école plus l'époque plus engagée, on va dire, du monde étudiant, et puis après, qu'est-ce que tu es devenu, mon camarade d'école, après toute notre pérégrination ensemble, voilà, donc Il mio compagno di scuola de Antonello Venditti.
Davanti alla scuola, tanta gente, otto e venti, prima campana, e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe e di occhiali di corse sulle scale, le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia. Nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. Da 40 anni di onesta professione. Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara. E la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito, un servo di partito. Un servo di partito. Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene, perché ditemi chi non si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu. Che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Mezzogiorno, tutto scompare, avanti tutti al bar. Dove Nietzsche e Marx si davano la mano e parlavano insieme dell'ultima festa e del vestito nuovo buono fatto apposta, e sempre di quella ragazza che filava tutti meno che te. Meno che te. E le assemblee, i cineforum e i dibattiti mai concessi allora, e le fughe vigliacche davanti al cancello,
e alle botte nel cortile e nel corridoio. Primi vagiti di un 68 ancora lungo da venire e troppo breve da dimenticare. Il tuo impegno che cresceva sempre più forte in te. Compagno di scuola, compagno di niente, ti sei salvato dal fumo delle barricate. Compagno di scuola, ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu.
Voilà, Antonello Venditti. Bon, je ne suis pas entré dans le détail hein, entre collège, lycée, etc.
Oui.
J'ai oublié de dire que l'équivalent du bac en Italie
c'est la maturita.
Existe, c'est les armées di maturità. Tout à fait. Bien, alors Serge va nous présenter les invités de ce jour.
Alors, vu la présentation qu'Alain a faite du nouveau gouvernement italien, il ne vous a pas échappé que l'on va parler pédagogie avec Florence Gaillard, qui est présidente de l'association Montessori Aide-moi à faire seul, qui, cette association est dans la même cour que nous, 73 avenue de la Libération à Bourgoin. Et on va parler d'une Italienne dont le nom est à peu près connu de tous. Il s'agit de Maria Montessori, dont on connaît aussi le domaine d'action, la pédagogie dite ouverte. Mais après ces deux propos, commence la nébuleuse pour beaucoup d'entre nous. Et là, Madame Gaillard va essayer de chasser le brouillard. Et puis, avec nous aussi, Monsieur Damien Bouvray, qui est président de l'association L'École des couleurs dans la région de Morestel, qui commence un long parcours, un parcours de 2 à 3 ans, pour créer une école ouverte où il y aura, entre autres, des méthodes Montessori. Alors, Madame Gaillard, d'abord, vous présentez et présentez votre association.
Bonsoir. Donc, l'association Montessori, dont je ne suis pas présidente, hein, j'interviens en tant que formatrice dans cette association. Cette association a été créée effectivement par mon mari et moi à un moment donné où il y avait un besoin de connaître un peu mieux, faire connaître un peu mieux Maria Montessori en 2010. Et petit à petit, on a eu des parents qui se sont intéressés, qui sont venus au départ, c'était plutôt de l'ordre de nos amis, et autour du handicap, notamment dans l'association Envol Isère Autisme, car je pratiquais à l'époque la pédagogie Montessori avec les enfants porteurs d'autisme. Et on a pu faire en 2012 une première petite formation pour ces parents. Et c'est comme ça qu'on a débuté un peu la formation dans notre association. Par ailleurs, nous faisions plus de l'information sur qui était Maria Montessori. En 2013, on a lancé une formation en cycle de donc 12 rencontres par an en direction des parents qui accompagnent les enfants porteurs de handicap, mais aussi les enseignants. Parce qu'on s'est aperçu qu'avec la loi de 2015 qui est arrivée juste après, on avait beaucoup d'enfants qui étaient porteurs de handicap et qui avaient, dont les enseignants avaient du mal à... Voilà,
À
gérer dans les classes, c'était pas simple. Et avec la pédagogie Montessori, qui est très individualisée, on a trouvé des solutions et j'ai pu les accompagner là-dedans. Et aujourd'hui encore, dans l'association, on a ces cycles de 12 dimanches, le premier cycle pour la maternelle et le deuxième cycle pour le primaire. Par ailleurs, dans l'association, on fait aussi le mercredi matin, un mercredi sur deux, un accueil des tout-petits avec leurs parents, donc ce qu'on appelle le nido. On fait aussi le mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi, hors vacances scolaires, ce qu'on appelle graines de découverte pour les 6-12 ans. On a une activité autour de l'anglais en Montessori par une personne qui est formée à la pédagogie et qui intervient en anglais avec le matériel, et aussi tout un tas de soirées, souvent le mardi soir, en direction des enseignants, en direction des parents, en direction des assistantes maternelles. Voilà, pour répondre à ça, tout se trouve sur notre joli site assomontessori.fr. Voilà.
Assomontessori.fr.
Voilà, et sinon, vous le trouvez aussi sur le merveilleux site de la mairie, dans les associations, bien sûr.
D'accord. Monsieur Damien Bouvray, donc à votre tour, vous nous présentez et présentez votre association qui est de la région de Morestel.
Oui, c'est ça, bonjour. Ben, écoutez, nous, c'est une association qui est bien plus jeune, qui a beaucoup moins d'histoire, beaucoup moins de choses pour le moment. En fait, ça tourne autour de trois porteurs de projets, Alix, Mariam et moi-même. On a décidé, après beaucoup de discussions, de nous lancer dans une belle utopie qui est d'ouvrir...
Une utopie concrète, quand même.
Oui, tout à fait concrète, mais pour l'instant, ça n'en est que des idées pour le moment, puisqu'on en est tout au début, on a tout à construire. Donc on a lancé cette association en mai 2016, pour la première réunion. On ne pensait pas avoir autant d'engouement, puisqu'on a, en quelques mois, on est passé de trois porteurs de projets à une cinquantaine de sympathisants. Et on a l'espérance, d'ici 2 à 3 ans, d'ouvrir une école ouverte, dont on pourra utiliser les idées de Montessori et de Freinet et d'autres.
Très bien. Alors, on a beaucoup parlé de Madame Maria Montessori. Madame Gaillard, dites-nous qui était Maria Montessori, sans parler dans un premier temps de sa pédagogie, mais de nous la présenter, elle, son milieu social, son époque, sa formation, etc.
D'accord. Alors, elle est née en 1870, hein, c'est-à-dire qu'elle était dans un siècle où une petite... Donc, c'est une fille unique, hein, d'un couple, je dirais, plutôt de la haute bourgeoisie, un papa qui va être reconnu pour être très militant et qui va aider à la formation de ce nouvel État italien. Et puis...
Oui, qui avait 10 ans à l'époque.
Oui,
elle est née.
C'est ça. Et, ouais. Ouais, voilà. Et il va agir vraiment pour l'unité de l'Italie. Et une maman qui est d'une famille d'ailleurs de scientifiques. L'oncle de Maria, Antonio Stoppani, est prof de géologie à l'Université de Milan et va être vulgarisateur de géologie, notamment par un livre qui s'appelle « Le beau pays », qui a vraiment donné, par cette pédagogie, une bonne idée aux gens de leur pays, qui va aider à cette unification de l'Italie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Elle est née à Chiaravalle, dans la province d'Ancône, et à 13 ans, elle va déménager à Rome, où elle va continuer ses études. Alors, c'était une petite fille très, on dirait aujourd'hui, très affirmée, alors dont le tempérament devait pas mal embêter les enseignants parfois, et par contre brillante, voilà, comme on peut avoir parfois dans les classes. Et elle va vouloir continuer ses études à la fin du parcours qui était prévu pour les filles, et elle va entrer dans une école principalement de garçons, une école technique, en 1884 pour continuer ses études. Elle aura l'équivalent du bac, et elle va vouloir continuer encore et faire des études en faculté de biologie d'abord. Pendant 2 ans, elle va être licenciée de biologie, et vu ses résultats, elle souhaite s'inscrire en médecine. Alors, c'était pas du tout prévu à l'époque.
Ce qui n'était pas prévu, c'était qu'une femme y soit inscrite.
Alors, une femme déjà soit à l'université, c'était déjà très rare.
Mais en plus, en médecine.
Et alors, en médecine, c'était juste jamais vu. Voilà, ça s'était jamais fait. Et le recteur de l'université envoie donc un courrier en disant que c'était pas possible parce qu'il y avait des raisons. Vous savez, c'est une époque où toute la religion pouvait avoir comme pouvoir. Et il lui répond que les femmes ne peuvent pas être reçues en médecine parce qu'il y a une raison théologique. Elle se dégonfle pas, elle en parle un petit peu à ses parents, notamment à sa maman, qui va beaucoup la soutenir, et ça va remonter jusqu'au pape. Et le pape, malheureusement pour le recteur d'université, va dire que les femmes ont toujours eu un rôle de soin auprès des plus faibles et des plus petits, et qu'il ne voit pas de raison, en tout cas théologique. Voilà, s'il y a quelqu'un qui doit parler théologie, c'est quand même lui. Donc peut-être une petite voilà, réponse
remise en place au passage.
D'homme à homme. Voilà. Et du coup, Maria Montessori rentre dans cette université. Elle va y être relativement, entre guillemets, maltraitée par ses étudiants, mais elle leur répond, comme c'est marqué dans que plus il siffle et plus elle montera haut, parce qu'il devait la siffler souvent, j'imagine.
L'air du sifflement, la pousseur.
Voilà, c'est ça. Elle va tout de même avoir son diplôme de médecine avec de très brillantes notes, puisqu'elle a 105 sur 110 hein, à sa thèse de médecine qu'elle a fait, je crois, sur la schizophrénie, si je me rappelle bien. Elle va être femme médecin et tout de suite, elle commence à travailler en psychiatrie, notamment dans l'hôpital de psychiatrie de l'université, où elle va travailler pendant 2 ans et elle va être en charge des enfants. Alors, vous savez, une femme, il ne fallait pas que ça se sache trop, que ça pouvait être une médecin et brillant en plus. Donc, elle se retrouve auprès des plus... ceux qu'on ne veut pas, donc les fous. Et parmi les fous, ceux qui, à l'époque, étaient vraiment les plus délaissés des délaissés, c'était les fous, les arriérés, comme on dit, les enfants arriérés, les plus petits. Et là, elle va se donner corps et âme à ce métier et elle va notamment aller chercher jusqu'en France auprès de Jean Itard, qui est le pionnier de l'ORL, hein, le premier ORL en Europe, et qui s'occupe des sourds-muets. Et là, notamment, vous avez peut-être entendu parler de Victor de l'Aveyron.
Le gamin, oui, le sauvage de l'Aveyron.
C'est, oui. Ça. Oui. C'est ça. Et cet enfant-là a été traité par Jean Itard et notamment par Seguin, qui était son assistant. Et ces hommes-là vont beaucoup lui apprendre parce qu'elle va ramener tout ce qui a été écrit par ces hommes-là en français. Elle les recopie et les traduit. Et la nuit, elle fait ça. Et le jour, elle applique ça, leur conseil, auprès de ses petits-enfants. Ses petits-enfants vont avoir de la chance parce que beaucoup de choses vont changer. Elle va inventer un mobilier à leur taille. Mmh. On dirait de l'ergonomie pour les enfants, ce qui n'existait pas à l'époque encore. Donc, si on trouve aujourd'hui des petites chaises aux tailles des enfants, c'est Maria Montessori qui a eu cette idée. Et puis, elle va faire un matériel sensoriel, c'est-à-dire qu'elle va dire l'entrée... première entrée neurologique, ça se fait par les sens et elle va soigner particulièrement tout ce qui est l'apprentissage sensoriel. On le retrouvera dans la pédagogie, sous ce nom-là. Et elle va aussi beaucoup défendre ses enfants pour leur dignité. Pour tout ça, elle va être reconnue très vite et malheureusement, les Italiens on va pouvoir cacher qu'ils ont une femme médecin à Rome. Et elle va militer et elle va devenir une militante, y compris assez féministe et virulente à ce niveau-là. La reine d'Angleterre de l'époque va lui décerner je ne sais plus quel le titre, mais pour la reconnaître en tant que femme qui défend les droits des femmes. Et elle va intervenir au congrès pédagogique de Turin. Sa première intervention est sur le thème de la pédagogie morale. Il faut entendre là-dedans qu'on peut aider les enfants, même qui ont des manques, hein, on dirait aujourd'hui porteurs de handicap, hein, et qu'on peut les aider et que ça peut marcher. Et ça va tellement bien, elle va tellement être écoutée que on va lui confier l'école orthophrénique de Rome, où elle va donner un enseignement sur comment éduquer ses enfants arriérés.
Donc là, elle était directrice de l'école, quoi.
Elle était sous-directrice, je crois. Enfin, voilà. Elle donne des cours, elle enseigne, et son enseignement principal, c'est l'observation scientifique. Elle dit, attention, observer n'est pas juger. Vous ne devez pas juger quand vous observez. Et vous devez rester en dehors de vos émotions, de tout ça, pour percevoir avant de penser, vous devez percevoir les éléments. C'est vraiment la science avant tout. Hein. C'est une femme de formation.
Qui va l'aider
à comprendre ça. Et on jugeait beaucoup, hein. D'ailleurs on juge toujours beaucoup dans la pédagogie. C'est quand même quelque chose d'important. Elle va, en 1904, reprendre ses études finir ses études d'anthropologie qu'elle a menées en parallèle. Alors, après son doctorat, elle a fait aussi des études en 1901 de psycho et de philo. Donc, elle a une formation humaine conséquente, hein, vraiment très conséquente. Et on va lui confier en 1904 la chaire d'anthropologie de l'Université de Rome à 34 ans. Hein, voyez, donc, c'est une femme quand même qui est très
brillante.
Ils ont
bien fait de siffler. Voilà.
Et... ils ont bien fait de siffler, ça a marché. Hein. Voilà. Voilà. Et après, en 1907, mais on va peut-être pas tout de suite y passer, elle fonde la Casa dei Bambini, la maison des enfants, qui va la faire entrer dans cette période de sa vie sur la pédagogie qui fera vraiment ce pourquoi elle va être connue.
Donc là, à l'époque, le contexte pédagogique devait être un peu comme partout en Europe, j'imagine, assez fermé, assez...
Alors oui, l'école de l'époque...
C'était un moule, quoi, en quelque sorte.
Voilà, déjà, l'école de l'époque, c'était une école où l'enfant n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. C'était un enseignement, comme on peut en trouver encore en Afrique, hein, où on répétait beaucoup les choses. C'était un enseignement quasiment par cœur. Les enseignants eux-mêmes, contrairement à ce qui se passait en France, les enseignants eux-mêmes étaient très mal payés. Et notamment, il y avait un système, au bout de 2 ans, ils avaient le droit d'augmenter un peu leur traitement. Et souvent, ils étaient virés au bout d'un an, un trois quarts. De façon à ne pas les augmenter. Et on leur disait, si vous voulez revenir, il n'y a pas de problème, mais c'est au prix de débutants. Voilà. Et tous les 2 ans, ils avaient le droit de recommencer à zéro.
Redoubler.
Voilà. Ce qui n'était pas engageant pour s'engager dans cette voie-là. Et puis, c'était une école de la correction, hein, physique. Et puis morale, et etc., hein, c'est-à-dire très coercitif. Et ça amenait les personnes à être formées à obéir. Hein, c'était l'objectif de l'État, obéir. Comme en France, hein, d'ailleurs.
Oui,
ce sont des années où en France, l'objectif, c'était aussi d'obéir. En France, juste avant 1914, hein, ce qui a fait qu'on a eu tous ces beaux soldats prêts à être utilisés comme chair à canon, c'est que l'enseignement était un enseignement qui amenait à obéir coûte que coûte.
Alors, voilà. Comme vous parlez de l'Italie, de la France, au début du siècle, il y avait eu... un mouvement international qui s'appelle la Ligue internationale de l'éducation nouvelle et qui rassemblait des libertaires comme l'anglais Neil et puis des humanistes communistes comme Célestin Freinet et Maria Montessori. Vous pouvez nous en dire un mot brièvement,
oui.
Pour remettre un peu ce contexte européen de l'époque.
Oui. Alors, ce congrès a été... le premier congrès a été fondé à Calais le 6 août 1921 par Adolphe Ferrière, Jean Piaget et Maria Montessori, et effectivement à Esneil. Vous savez, c'est les enfants de Sommerhill, hein,
les libres enfants de Sommerhill,
voilà. Donc, on voit déjà qu'il y avait alors toute une mouvance, hein, pour penser l'enfant autrement que peut-être sous forme coercitive, si je peux employer ce terme. L'éducation nouvelle, elle prend ses racines fin du 19e. Hein. Pédagogie nouvelle, ça voulait dire active. C'est-à-dire, ça vient de l'anglais John Dewey qui avait écrit Learning by Doing. C'est-à-dire, pour apprendre, il faut faire. Hein. Et puis après, par Cecil Reddy, en Angleterre, en 1889, qui avait fondé New School, qui était une école qui était dans la mouvance des humanistes, hein, tels que Rousseau, et puis qui va être ensuite repris par Montessori, par De Croly, par Freinet. Toute cette pédagogie nouvelle, c'est une pédagogie où le corps a une place. On apprend en faisant, alors pas seulement en répétant et en pensant quelque chose de pré-pensé.
On est un peu plus actif.
Voilà. Ouais. Et puis on commence à penser que l'enfant, il faut qu'il ait sa propre pensée, ce qui est quand même tout à fait nouveau. Dans les travaux à Esneil, hein, on a cette idée que l'enfant, suite à ce qui a été découvert notamment dans la psychanalyse, la formation de l'enfant se fait avant l'âge adulte, bien sûr, et la pensée de l'enfant dépend beaucoup de la façon dont il a vécu pendant la toute petite enfance, et que son âge adulte va dépendre de la façon dont il a été élevé au cours de ses années d'enfance. Donc, comment élever autrement, voilà. Il y a une rupture, hein, dans cette pensée. Avant, c'est une école qui impose le savoir, qui impose les contenus, qui impose la manière d'apprendre, qui impose tout. Et puis c'est une école collective, hein. C'est issu de ces regroupements d'enfants pour qu'on leur donne une certaine instruction, mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup de moyens.
Bien sûr.
Et même après Jules Ferry, l'école n'a pas énormément de moyens. Donc il faut que ce soit rentable, on met un enseignant pour un maximum d'enfants. Hein, c'est un enfant pour 40, 50 enfants, un enseignant pour 40, 50 enfants. Voilà. Alors que là, avec la nouvelle éducation, on va avoir une idée de développer le potentiel de chaque enfant, de prendre en compte sa différence personnelle, de lui permettre en tant qu'individu de s'exprimer, de le reconnaître comme individu, ce qui est carrément révolutionnaire. Et puis d'agir éviter une connaissance livresque, sclérosée, quelque chose du prêt-à-penser qui répète comme ça dans leur vie, mais plutôt de les aider à apprendre à penser.
Alors, ce qui interpelle un peu, vous parlez de ce mouvement du début du XXe siècle, on est 100 ans plus tard, je pense que tout ce que vous venez de dire, on doit le retrouver dans des instructions du ministère d'Éducation nationale, quasiment mot pour mot, quoi.
Alors déjà, il y a une idée qui est amusante, c'est qu'avant, ça s'appelait l'instruction nationale. Et c'est devenu l'éducation nationale. D'où vraiment la conscience...
Il y a eu l'instruction publique à un moment.
Ouais. L'instruction publique, c'est ça. Au début, on parle... Voilà, c'est ça. Au début, on parle d'instruction publique, c'est-à-dire il faut ensemble apprendre. Et puis, on voit que l'État, petit à petit, devient éducateur de sa population. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant au niveau de la...
Alors, si on rentre dans le détail de la pédagogie Montessori, comment on passe de ces principes à l'action ?
Comment Maria Montessori, cette femme médecin, devient pédagogue et pédagogue fondatrice d'une grande pédagogie ? Eh bien, ça va se faire, le miracle va se faire en 1937. Elle va se voir confier... Alors, elle a rien à attendre de la vie. Hein. Elle a sa chaire d'anthropologie, elle est une femme médecin reconnue, il n'y a plus rien. Enfin, je dirais, elle a tout vaincu au niveau de ce côté médecin. Et là, il y a un homme qui vient la chercher. Il est propriétaire d'immeubles dans un quartier populaire à San Lorenzo et il a des soucis. C'est un quartier populaire où la population n'est pas très éduquée. Les enfants sont un peu laissés à l'abandon et dans la journée, ils font toutes les bêtises qu'on peut trouver, nous, dans nos cités, hein, c'est-à-dire dégradation des murs. On retrouve... C'est une population qui a une hygiène déplorable, etc. Et il se dit, il nous faut un médecin pour faire ce qui pourrait être l'équivalent de la PMI d'aujourd'hui.
Voilà. Hein, oui.
Voilà. Elle a cette idée de dire, bon, donnez-nous une maison, on va en faire quelque chose. Et dans cette maison, on regroupe une cinquantaine d'enfants hein, qui avaient entre 2 ans et demi et 6-7 ans au début. Hein. Et puis, ces enfants, elle va d'abord leur apprendre l'hygiène. Elle va ce qu'on appelle maintenant vie pratique dans la pédagogie Montessori, c'est-à-dire qu'elle va leur apprendre à prendre soin de soi. Pour prendre soin des autres et du reste de la population, il faut d'abord apprendre à le faire pour soi-même.
Soi,
voilà. Et ça, c'est assez révolutionnaire aussi. Elle va leur donner des notions d'hygiène. Hein, c'est l'époque hygiéniste, vous savez, où on pensait tout par rapport à l'hygiène.
Oui.
Et là, elle va...
Parler dans l'hygiaphone.
Voilà, c'est ça, parler dans l'hygiaphone. Elle va leur apprendre à se laver les mains, à laver des légumes, à couper des légumes après avec un couteau propre. Tout va se faire pour qu'ils aient une instruction qui puisse emmener à la maison. Parce que son idée, c'est que si on forme l'enfant, l'enfant va pouvoir donner quelque chose, une impulsion au niveau des parents. Et c'est ce qui se passe. On voit aux fenêtres des maisons des fleurs apparaître, on voit les mamans balayer plus souvent, on voit les enfants n'avaient le droit de venir. Alors, ils étaient accueillis, par contre, ils devaient être propres et d'une hygiène corporelle et avoir des vêtements propres. Donc, elle va les amener cet espace nouveau de coéducation, parce que elle va dire que les parents peuvent venir quand ils veulent. Donc ça, c'est une école ouverte.
Ça ressemble un peu aux écoles de
chez nous, hein.
Comment de celle qui faisait les émissions de radio à la télé. Là. Ah, le nom m'échappe.
Alors, en tout cas, c'est une école ouverte où les parents qui viennent peuvent voir comment sont instruits leurs enfants. Et puis, elle veut que l'enseignante puisse vraiment être en lien avec ses parents, qu'il n'y ait pas une éducation qui soit coupée entre ce que donnent les parents et ce que donnent les enfants. Elle dit qu'il faut une optique commune pour éduquer les enfants. Et là, l'enseignante, elle impose que l'enseignante soit sur place pour collaborer avec les parents.
Qu'elle soit dans le milieu.
Quoi. Dans le milieu. Donc, elle habite sur place, dans cette cité. Hein. Et ça va donner quelque chose d'extraordinaire qui va vite se répandre au-delà de l'Italie. On va en trouver assez vite en France, en Espagne, etc., autour de l'Italie. Et ces maisons des enfants, ça va être vraiment un formidable succès. Malheureusement, assez vite, bon, 1913, elle fait ses premiers cours où elle enseigne comment faire pour monter ses écoles et comment transmettre la pédagogie qu'elle a montée. Et 1914, comme vous le savez, la guerre arrive. Mmh. Voilà, et ça va être le frein un petit peu. Elle va partir aux États-Unis. Le 3 décembre 1913, elle est accueillie à New York, alors avec une foule immense qui l'acclame, parce que notamment les suffragettes, si on peut dire, les femmes américaines ont entendu parler de son militantisme pour que les femmes aient le droit de vote. Et elle est accueillie vraiment comme une star, voilà. C'était étonnant. Voilà, pas pour sa pédagogie, mais pour...
On va s'arrêter une minute avant la période américaine de Maria Montessori avec une deuxième chanson.
Oui, alors j'ai choisi Roberto Vecchioni pour une simple raison, c'est qu'il est surnommé le professeur et le professore. Il est né en 43 et il est milanais. Mais donc il est bien chanteur. Il est écrivain, il est poète, il est homme de théâtre, mais il est aussi réellement enseignant.
Et que soit le sujet de l'émission, Alain a des chansons.
On y revient.
En fait, alors bien sûr, maintenant, il est né en 43, il est plutôt, il intervient dans les universités, que ce soit en Italie ou à l'étranger, mais de 69 à 2004, il a été enseignant d'abord au collège, puis après au lycée en Lombardie, et il était prof de latin et de grec. Donc il connaît bien le domaine de l'enseignement. Et au niveau chanson, il a remporté tous les prix possibles de la chanson en Italie, hein, que ce soit le Tango, qui est plus de la chanson d'auteur, le Festival Bar, là aussi, le Festival Sanremo, qui est plus axé sur le côté variété, on va dire, et le Premio Mia Martini, qui reconnaît les meilleurs albums. Il a aussi, sa vie est jalonnée d'engagements sociaux notamment. Chaque année, par exemple, à Naples, il y a une manifestation qui s'appelle Giochi senza barriere et qui est organisée par l'association Tutti a scuola, tous à l'école.
Tous à l'école.
Qui est en fait une manifestation, et cette association la met en avant, pour la lutte, on en a parlé tout à l'heure, pour le droit des enfants porteurs de handicap. Donc c'est un engagement que Vecchioni a depuis longtemps. Voilà, on va passer sur sa vie. On va écouter, c'était son 19e album, il en a fait beaucoup, hein, d'albums. Et on va écouter Blue Moon, qui est aussi le titre de l'album, qui reparle un peu d'ailleurs de sa vie à lui, Vecchioni.
Come che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro ride.
E non mi dire più niente, sì lo so. Ti ho fregato sugli anni, se lo so. Ma gli anni io li ho amati da incosciente, ad uno senza preferenze. E a ridarteli indietro brucia un po'. Non rimpiango le cose che non ho. Sono molte, molte di più quelle che ho. Da viaggiatore di malinconie mi trovo a corto di furfanterie. Le stelle della mia sera sono mie.
questa luna del cielo sembra panna che voglia di una lontana ninna nanna. Ho tanti amori, tanti figli addosso che pare brutto salutarli adesso. Sono un uomo felice, lo confesso. I marinai che se ne vanno via non hanno limiti di nostalgia. Vado nella mia sera perché è mia. È la mia sera. È la mia vita. A luci spente, blu, 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 dolore niente, blu, 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 blu. Quando ci vedremo spero tardi e non mi importa come. Con la donna e con gli amici miei. Lasciami un buco per guardare in fondo. Vorrei vedere qualche volta il mondo, il mio mondo. Ti voglio bene.
Oui, Madame Montessori aux États-Unis qui arrive à clamer pour son.
Voilà, donc on voit Madame Montessori.
Juste ouais. Une petite parenthèse, on est sur 97.1 sur Couleur FM.
Je vais le redire, nous sommes sur Couleur FM 97.1.
Alors, donc, voilà Maria Montessori qui va passer la période de la guerre 14-18 en partie aux États-Unis et à voyager. Elle va y former des enseignants et fonder aussi petit à petit l'AMI, l'Association Montessori Internationale, quelques années après, pour, en 1929 exactement, pour protéger ce qu'elle a commencé à mettre en place, parce que elle a besoin que tout ce qu'elle met en place puisse rester dans l'esprit. Parce que c'est une époque où les pédagogies nouvelles foisonnent et où il y a beaucoup de mix d'une pédagogie à une autre. Et elle pense que pour qu'une pédagogie marche, il faut qu'il y ait une unité. Parce que dans la pédagogie Montessori, il y aura une unité qui n'est pas celle de la pédagogie Freinet ou de la pédagogie de Crowley ou d'une autre pédagogie comme Steiner. Et donc, toutes ces pédagogies ont leur intérêt. Mais c'est vrai que leur fondateur a une création qui est unifiée autour de thèmes, autour de choses. On parlait entre deux, là, pendant la chanson, de Freinet. Et c'est vrai que c'est un homme qui a fait beaucoup de choses pour justement libérer l'enfant à l'école. Et par ses idées communistes, il a fait beaucoup avancer les choses, finalement, au niveau laïque, en France notamment.
Oui, oui.
Hein, et... il veut promouvoir, comme à Montessori, une éducation qui enraye la spirale agressive et guerrière qui était à l'époque promue hein, dans l'éducation nationale traditionnelle. Et il s'implique humainement, comme Marie Montessori l'a fait. Il y a juste une petite question, c'est qu'il est à l'opposé de ça. Lui, il va penser le groupe qui va nourrir l'individu. Maria Montessori nourrit l'individu, qui va amener une richesse dans le groupe. Donc c'est juste voilà pour vous dire que toutes ces pédagogies, elles sont différentes. Je termine. Donc Maria Montessori, alors on en a parlé entre deux guerres, il va y avoir tout ce mouvement d'éducation. Nouvelle au niveau international et au niveau européen. Et puis, après, il va y avoir l'épisode entre 32 et 39, en 36, Mussolini va être touché par l'efficacité de sa pédagogie. Le fait que les enfants qui sortent de là sont des enfants intelligents, il va venir la contacter et lui demander de participer en devenant... Alors, certains disent ministre de l'éducation. On ne sait pas la fin parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il lui a proposé parce qu'elle a très mal répondu à la question. Oui. En fait, elle a répondu à la question en disant je n'accepterai jamais de m'impliquer pour faire des robots fût-il mussoliniens. Ce qui lui a valu l'interdiction de ses écoles, ses livres brûlés, ça a été le blackout complet.
En Italie. Heureusement qu'elle avait son
empreinte
internationale.
Elle a dû donc partir d'Italie. Et elle s'est retrouvée donc un petit peu plus tard, d'abord en Hollande, en Espagne, et puis en Inde, où elle a, lors de du second conflit, été assignée à résidence par les Britanniques, du fait qu'elle était italienne et que justement, il ne voulait pas qu'elle puisse avoir des contacts avec son pays. Voilà, elle terminera sa vie en 1952, à 82 ans, aux Pays-Bas. Mais il faut retenir de cette femme, cette magnifique...
Un beau parcours.
Voilà, un beau parcours. Et moi, j'apprécie énormément tout ce qui concerne sa mission autour de la paix et l'éducation. D'après ce que j'ai compris, on reviendra pour en reparler.
Voilà. Alors, maintenant, Monsieur Bouvray, Damien, entrons dans votre projet pour rendre concret vers Morestel les principes, entre autres, de Madame Montessori et puis d'autres éducateurs. Donc là, Florence Gaillard nous disait que chaque grand pédagogue voulait trouver qu'il y avait une unité dans sa pédagogie. Et si j'ai bien compris, votre projet va mélanger un peu toutes les pédagogies. Oui, Parlez-nous de votre projet sur Morestel.
Alors nous, on est parti vraiment sur quelque chose. Le maître mot, c'est l'ouverture, en fait. Et dans nos différentes réunions, c'est revenu très souvent. On veut beaucoup d'ouverture. Ouverture à l'autre, ouverture des bâtiments eux-mêmes. On veut vraiment que tout soit ouvert, voilà. Que les enfants puissent s'ouvrir à la vie, quoi, voilà. C'est tout.
C'est vraiment aux autres, ils s'ouvrent.
Vraiment, c'est quelque chose de nous. Pour nous qui nous sommes très intéressants et très importants, parce que ce qui est ressorti de nos différentes réunions, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés, je ne sais pas, c'est peut-être un peu fort, mais qui ont une idée de l'école qui est d'aujourd'hui qui est très enfermante. On est enfermé dans une classe à double tour. Aujourd'hui, on est dans un monde très sécuritaire où on doit s'enfermer si jamais il y a des terroristes qui débarquent. Et on trouve ça vraiment très dommage. Donc on est parti sur l'ouverture. Et ça implique aussi une ouverture à toutes les pédagogies. On ne veut pas être enfermé dans une pédagogie parce qu'on estime que les enfants sont différents, les adultes sont différents. Il y a des pédagogies qui vont plus fonctionner avec l'un ou avec l'autre. Ça peut être aussi d'une année sur l'autre, on ne sait pas.
Donc le projet est d'ouvrir une école.
Le projet est d'ouvrir l'école pour revenir à l'ouverture, oui.
Et quand ?
Ah, ça, quand c'est la grande question. En moyenne, on parle de 3 ans, 2 à 3 ans entre le moment de la création de l'association et l'ouverture réelle. On vient de l'ouvrir en mai 2016.
L'association.
Espérons que d'ici 2 ans, 3 ans, on arrivera à quelque chose à ouvrir. Vraiment
et dans l'ordre des école. Travaux, il y a un projet pédagogique, ensuite des bâtiments. Enfin, comment ça va
se... Alors, ça se fait ça se fait un peu tout en parallèle, c'est ça qui est complexe, c'est qu'on ne peut pas faire un budget si on n'a pas le lieu. Comment faire le lieu, comment trouver un lieu? Un lieu, c'est aussi un budget, et ben hop, on retombe sur nos pattes sur le budget. Et puis il y a le projet pédagogique qui est très très complexe, parce que comme on veut, encore une fois, que ça soit une école ouverte, les parents ont vraiment leur mot à dire dans ce projet pédagogique. Donc il faut arriver à trier ce que chacun veut pour leurs propres enfants. Donc arriver à faire le tri entre qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait plus de Montessori, plus du Freinet, plus de je sais pas.
Et ici, dans la région, il existe d'autres écoles comme ça où Florence de
Oui, moi je travaille dans une école, l'école Primevert, qui est effectivement aussi une école ouverte à plusieurs pédagogies. Moi j'y enseigne à la manière Montessori, mais il y a effectivement plusieurs écoles hors contrat, souvent, qui existent. Voilà. Pour répondre à ce besoin des parents d'avoir parfois d'autres formes.
Et ça se trouve
formes.
À quel endroit, cette école ?
L'école Primevert est à côté de la côte Saint-André, à Gilonnet.
D'accord. Voilà. Et vous en connaissez d'autres, Damien, des écoles comme ça
Alors, il y a les écoles très connues des Amanins d'Isabelle Peloux, mais qui est plus loin, qui est dans la Drôme, il me semble.
Et les Amanins, c'est pas où il y a...
C'est limite de l'Ardèche.
Ouais,
c'est
Pierre Rabhi, là.
Voilà, Pierre Rabhi,
oui.
C'est ça.
Ah, c'est l'Ardèche, oui.
Ouais, c'est ça,
oui.
C'est ça.
Mais loin de Morestel.
Voilà, c'est très loin de nous, on va dire, mais...
Après, il y a une école, il y a Chambéry, qui a aussi, voilà, une école.
Voilà, il y a des écoles Montessori, qui eux sont plus Montessori, sur Belley aussi, il me semble, Chambéry.
Ouais. Moi, j'ai travaillé à Champagne-en-Valromey, effectivement, voilà. Ouais.
Il y en a quelques-unes, ça s'ouvre, ça
Et est-ce
ça
que ce
beaucoup.
Sont des écoles complètes ou est-ce qu'il peut y avoir, comme je l'ai vu il y a très très longtemps, c'était le siècle passé, concernant la pédagogie Freinet, il y a un instit dans une école de 10 classes qui va faire de la pédagogie Freinet. Est-ce que ces écoles, alors, là, c'est toute l'école ou c'est un enseignant dans l'école?
Alors à côté de la côte Saint-André, à Gilonnet, il y a deux classes uniques et par exemple sur notre école, il y a plusieurs enseignants, que ce soit pour le primaire ou que ce soit pour le collège. Moi par exemple, la directrice du collège, elle est d'enseignement Freinet au départ. On a une personne qui intervient en théâtre, qui est de formation classique de théâtre. Donc ça peut être aussi
Donc,
une richesse
un...
de
voilà.
pédagogie voilà, qui se partage. Mais voilà, chacun ayant apporté sa richesse aux enfants.
Quelqu'un vous dit, nous, on est en train de réfléchir, etc. Vous, donc, dans l'association, qui au départ, quel type de personnes regroupe l'association ? Est-ce que ce sont des enseignants, des parents, les deux, des gens qui ont réfléchi parce qu'ils sortent de milieux ou associatifs ou autres ?
Il y a un peu de tout, mais on a, au fur et à mesure des différentes réunions, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'instits, entre D'accord. autres, d'institutrices. Mmh. Un peu moins d'hommes, mais plus de femmes. Et beaucoup d'institutrices, soit qui sont encore
en activité,
soit d'autres qui ont carrément démissionné parce que déçus de la façon dont c'est amené en l'éducation nationale, dans la façon dont c'est fermé. Voilà. Mais on a un peu tous les profils. Mais effectivement, on a une surreprésentation des gens, soit du corps enseignant, soit des gens qui sont formés Montessori aussi, ou qui sont en cours de formation.
Et avant de vous lancer dans l'école, est-ce que vous avez pensé, par exemple, à faire des activités périscolaires, style le mercredi ou pendant les vacances, pour avoir un début de concret
Sur l'association, ouais, c'est ce qu'on a lancé, nous, d'abord. C'est des petits ateliers pour tester un peu des projets.
Et Damien ?
Oui, là, ça fait partie des idées pour nous faire connaître et aussi rentrer des financements. On a besoin de financement. Alors pour l'instant, c'est encore que des idées. On est en cours de discussion. Il faudrait aussi qu'on trouve certainement un local pour pouvoir.
Et vous avez des relations avec les mairies autour de Morestel
Très très peu aujourd'hui.
Très peu.
Très peu, oui. On hésite un peu parce qu'on pense que certaines municipalités pourraient avoir peur de. Concurrence entre guillemets l'école publique. Alors pour l'instant on ne sait pas, on n'a pas encore pris beaucoup de contacts, on espère qu'ils seront ouverts eux aussi aux suggestions.
Bien, eh bien, donc on peut se donner rendez-vous quand même pour
un thème à la
peut-être un petit peu plus large
non,
à la
on
prochaine
continuera,
émission.
Je pense, développer le avec
la
Florence,
au mois de janvier,
la portée Montessori.
Oui. Oui.
Et puis Damien, ce qui serait bien, c'est de connaître l'avancement du projet.
Oh oui, avec plaisir.
Faire des rendez-vous périodiques, tous les 6 mois.
Parce que moi, je vous invite à venir voir ce qu'on fait et on peut partager déjà à propos de ça.
Une petite dernière question, les rapports avec l'éducation nationale.
Nous, ils sont bons, en fait. L'important, c'est d'être sérieux. C'est-à-dire, l'école privée hors contrat, elle est autorisée en France. Comme on l'a vu l'an dernier avec Mme Belkacem, ça a été réglementé. Mais c'est tant qu'on est dans les clous, il n'y a pas de raison. Nous, on est astreint, pas au programme en eux-mêmes, mais au socle commun. commun. Et dans la mesure où on répond au socle commun de connaissances et de compétences, il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec l'éducation nationale. Si on est sérieux au niveau de la sécurité, si on tient au courant les parents et que tout se passe humainement parlant bien, il n'y a pas de raison. D'accord. Après, ça reste une école où les parents payent tout, hein, des bâtiments jusqu'à l'enseignant. Bien sûr.
Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, Damien.
J'espère bien.
Alors,
nous sommes optimistes.
Voilà.
On va souhaiter surtout
bonne route.
Leur FM 97.1.
Bonne route,
une bonne
à
année
Damien.
À tout le monde.
Merci beaucoup.
Et puis, une année d'ouverture. Je crois que tout le monde en a bien besoin.
Oui.
Voilà.
Et puis de paix, parce qu'on se retrouve sur la paix bientôt.
Sûr, l'ouverture, sous-entendue aussi paix, bien sûr, mais voilà. Oui. Il y a peut-être du travail.
Voilà. Au moins pour une autre émission.
Et puis, eh ben, bonne soirée à tous, ou bonne journée.
Bonsoir,
quand
Laurent.
Quand l'émission est rediffusée aussi en journée. Et bonne année à toi, Laurent, qui a toujours été efficace depuis de nombreuses années. Voilà.
Au revoir à tous.
Au revoir à tous.
Au revoir.
À
au revoir.
À
À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animé par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.